Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Philippe Dutilleul, vous publiez un asile de flou nommé Belgique, sous-titre « Portrait à l'aigre doux d'un pays en décomposition » aux éditions Buchet-Chastel. Alors, dans le titre, le ton ironique et décalé est donné, un asile de flou nommé Belgique, mais dans le sous-titre, il y a comme un regret et une tristesse ou une nostalgie. Est-ce que c'est un peu à l'image de votre livre ?
Oui, c'est à l'image du livre, c'est à l'image aussi de la préface écrite par Nicolas Cruz, donc qui est journaliste au Soir, où en fait, oui, il y a une nostalgie entre ce que le pays est, entre ce que le pays devient et ce qu'il pourrait être. Donc c'est un peu un constat, je dirais pas de désillusion, mais c'est un peu un constat acide de ce qu'est devenu ce pays. Alors pas seulement au niveau constitutionnel ou institutionnel ou communautaire, mais aussi d'une manière plus générale, puisque j'aborde dans cet ouvrage non seulement le problème dont on parle souvent en Belgique et à l'étranger, le conflit entre flamands, wallons et bruxellois, mais aussi toute cette Belgique souterraine, toute cette Belgique des petits arrangements qui font que finalement le Belge a à l'extérieur une image de convivialité, un sens pratique, etc. Mais je dirais à quel prix. Et donc ce prix aujourd'hui, je trouve, est trop lourd à porter.
Alors, pour enchaîner sur ce que vous dites, vous évoquez à un moment donné cette image du compromis à la Belge, mais vous interrogez, est-ce que ce n'est pas plutôt de la compromission ?
Oui, voilà. Alors, j'examine plusieurs plans. Moi, j'examine par exemple le plan des relations sociales, où je dis que finalement, c'est un système relativement bien huilé qui fonctionne à la satisfaction assez générale des interlocuteurs sociaux, comme on l'appelle. Mais comme on est dans un petit pays que tout le monde connaît, tout le monde, on en arrive assez souvent à passer en effet des accords qui sont plus des compromissions et des arrangements où on est un peu juge et partie, où les intérêts publics et privés ne sont plus très clairs. Et donc c'est là-dessus que je m'interroge, c'est là-dessus que je m'insurge et c'est là-dessus que j'interroge aussi des témoins qui donnent leur point de vue à visage découvert ou qui ont préféré de rester anonymes.
Un des chapitres qui m'a fort frappé, parce que j'ai compris finalement ce dont il s'agissait, c'est un système qui mêle le public et le privé, qui s'appelle les intercommunales, et pour lequel moi j'avais un a priori plutôt favorable.
Mais moi aussi j'ai un a priori favorable pour les intercommunales, c'est-à-dire la mise en commun de choses que l'on traite ensemble plutôt que tout seul dans son coin, avec un secteur public qui est fort. Donc sur le principe, moi, j'ai vraiment rien contre. Seulement, quand on examine de plus près, on se rend compte qu'en effet, là aussi, secteur privé, secteur public ne sont pas toujours bien distincts, que ces intercommunales, quand vous prenez par exemple le secteur de l'énergie, eh bien, il débouche sur des prix aux consommateurs qui sont extrêmement élevés. Je parle de l'électricité basse tension, je parle aussi de la téléphonie. Et puis, on remarque aussi, et là, je me base sur un ouvrage d'un de mes confrères qui est économiste et que je cite longuement dans le livre, il a bien disséqué aussi la façon de fonctionner à l'intérieur de ces intercommunales, où il s'agit évidemment de placer une nouvelle fois des amis, et en général des amis politiques. Alors la question que je me pose est de savoir si ces gens qui sont là aux commandes des intercommunales et qui représentent le service public apportent de véritables compétences et apportent une véritable plus-value au travail qu'ils sont censés remplir, et donc assurer des services, assurer un relèvement économique à une sous-région ou une région en particulier en Wallonie. Et là, la réponse est extrêmement nuancée. Et quand vous faites le compte, par exemple, de toutes les aides qui ont été apportées à une province comme le Hainaut dans le cadre d'Objectif 1, il faut bien reconnaître que tous les projets...
L'Objectif 1, rappelons-le, ce sont des financements au niveau européen qui sont donnés dans des zones particulièrement frappées économiquement.
C'était le cas, et c'est toujours le cas de la province de Hainaut. On a remarqué que malgré ces aides, eh bien, le Hainaut ne s'est pas relevé, si vous le comparez, par exemple, à une zone voisine, qui est la région du Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, donc il va de Valenciennes jusqu'à Dunkerque, avec d'ailleurs une coloration politique identique à majorité socialiste. Sur le papier, c'est bien les intercommunales, mais dans la pratique, il est clair que au niveau de la gestion, il y aurait beaucoup à dire, aussi sur l'opacité, le manque de transparence. Vous savez que c'était l'objet d'un vaste débat politique. Il y a une réforme des intercommunales, mais manifestement pas suffisamment profonde. Et c'est vrai que si j'ai cité cet exemple, c'est justement pour montrer qu'en théorie, moi, j'ai pas de problème et c'est plutôt une bonne chose. Mais dans la pratique, il y a énormément de critiques à faire sur le fonctionnement de ces intercommunales et sur aussi les résultats qu'elles obtiennent. Alors évidemment, quand elles sont seules sur le marché, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand on se vante, par exemple, de faire venir des entreprises, encore une fois, c'est très bien de leur offrir des terrains, de leur offrir des infrastructures adaptées. Mais quand ce ne sont que des déplacements d'entreprises qui viennent d'un endroit et qui se déplacent vers un autre, on ne peut pas dire vraiment qu'on crée de l'emploi. Donc voilà, c'est toute une série de questions que je me pose. Et là aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé longuement dans les intercommunales et qui m'a dit qu'en fait, on y plaçait aussi les amis, les petits amis, et que finalement, parfois, dans certaines intercommunales, comme dans le monde politique, ça devient une affaire de famille au sens large du terme, aux familles en termes de liens familiaux, mais aussi en termes de famille politique.
Oui, je pense que c'est cet interlocuteur-là qui a cette formule, la lutte des places a supplanté la lutte des classes, parce que nous sommes dans un environnement politique de gauche.
Oui, tout à fait, on est dans un environnement politique de gauche, en tous les cas pour ce qui concerne la Wallonie. Alors encore une fois, moi je ne fais pas le procès, ou de la Wallonie ou de son personnel politique, etc. Je dis simplement qu'il y a des choses qui ne vont pas, elles sont manifestes, la population est lassée par ces choses qui ne vont pas et on ne voit pas de changement au bout du tunnel. Il y a des exercices de communication comme le plan Marshall, etc., qui vont certes dans le bon sens, qui nous font croire que la Wallonie est en train de se relever. C'est vrai que certains indices, certaines statistiques le montrent, que la Wallonie est en train de se relever. Mais quand vous grattez un petit peu, quand vous allez vraiment sur le terrain, vous imaginez, vous voyez que vous êtes absolument très, très loin du compte. Et donc, c'est un petit peu, si vous voulez, toutes ces choses que j'ai essayé d'accoler bout à bout avec des réflexions personnelles, mais aussi avec des témoignages, mais des témoignages qui viennent de bords et de courants totalement différents. Parce que, disons, moi, j'ai mes idées. Je l'ai dit, notamment au niveau institutionnel et communautaire dans ce pays. Mais je donne aussi la parole à des gens qui ont des avis totalement divergents, notamment sur le devenir belge.
D'un autre côté, votre livre n'est pas une étude ou un essai ni économique ni politique. Vous dites vous-même que votre méthode se base sur le constat. Alors là, je vous cite, « Une situation se décrit autant par la somme des petites observations intuitives et impressionnistes récoltées à la source que par les statistiques. » Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que vous courez là le risque de faire le lit sur « bon, tout se pourrit ».
Non, justement, ce que je démontre, c'est qu'il faut justement pas tomber dans ce piège du tout pourri, mais que la façon dont le système politique fonctionne aujourd'hui en Belgique, son manque total d'autocritique, son opacité, son manque de transparence et le fait quand même que, par exemple, l'administration est colonisée par les trois grandes familles traditionnelles. En fait, ce pays, selon moi, souffre vraiment d'une carence de démocratie. Il souffre d'un manque de démocratie. Et si on le compare, par exemple, avec un pays où il y a autant de différences entre ses cultures et ses langues et ses populations que la Suisse, bien, vous remarquez quand même que la Suisse est un système, et je cite d'ailleurs des exemples dans mon livre, qui fonctionne mieux. Pourquoi fonctionne-t-il mieux ? Bien, parce qu'en Suisse, on a moins peur du débat qu'en Belgique. En Belgique, on a vraiment la frousse bleue du débat. Tout ça doit se régler dans le précaré des partis politiques. Et donc, c'est vrai que moi, je dis, si la Suisse fonctionne mieux, si par exemple, il y a le vote, la votation populaire, qui n'est pas un plébiscite qui vient d'en haut, ni un référendum qui vient d'en haut, mais d'en bas, eh bien, quand il y a débat sur des matières qui concernent l'ensemble des gens, eh bien, il faut prendre les gens comme étant par définition intelligents à partir du moment où ils sont véritablement informés. Je ne parle pas de communication, là, je parle de véritables informations. formation. Et quand vous voyez les grands débats de société en Suisse dernièrement, il y en a encore eu un sur le fait qu'on laisse ou pas entrer des ouvriers venant de l'Est, ben on aurait pu penser que le vote aurait été non, et il était oui. Donc à partir du moment où on joue vraiment le jeu démocratique, je pense qu'on fait avancer l'ensemble de la société, en tous les cas, les gens qui ont envie de participer à la vie démocratique. Donc il y a un saut qualitatif dans la société. Et c'est justement ce saut qu'on ne fait pas en Belgique. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un saut régressif, qu'on veut résoudre les problèmes dans des petits cénacles. Alors, vous savez, il y a toute la personne qui décrit ce système de poupées russes, ou un autre parle de labyrinthe. C'est vrai qu'il y a des cercles de pouvoir dans ce pays plus ou moins opaques qui fait que l'on prend des décisions qui concernent et qui favorisent certaines familles, certaines personnes, mais où je trouve le sens de la collectivité, le sens de l'intérêt du collectif est complètement manquant et défaillant. Et donc, voilà. Alors, on me dit que la Belgique a toujours fonctionné comme ça, OK, mais aujourd'hui, on voit où cela mène. Et mon sentiment est qu'on arrive vraiment à une impasse. Je faisais un peu la comparaison avec la France. Est-ce que la France va sauter de la 5e à la 6e République, puisque vous savez que cette constitution a été taillée quand même comme un costume pour De Gaulle et par De Gaulle. La même chose, je me demande si ce système particratique tel qu'il existe en Belgique, où tout a déjà été distribué entre les familles politiques, entre flamands et francophones, on arrive à une impasse. Parce que si on distribue encore, on détricote complètement l'État belge, il n'en reste plus. Et donc voilà, on est dans une impasse. Donc je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une grande mise à plat, non seulement du problème communautaire, mais des autres secteurs, comme la justice, par exemple, comme l'économie, où on a fait des réformes, mais qui ne sont pas satisfaisantes, manifestement.